RCFM, la Méditerranée.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Méditerranée, bienvenue dans Kantara, votre magazine hebdomadaire des deux rives de la Méditerranée. Et les aventures de Kantara se poursuivent avec son équipe incontournable qui regroupe Jérôme Souzeni de France Bleu RCFM en Corse, Inès Azagraprego de Radio Extérieure d'Espagne, Sondos Ben Khalifa de RTCI, Nadira Belkhoutou de Rabachan Inter, Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2 et moi-même, Dine Abdelmeghid de Radio Le Caire. Au sommaire de cette édition, Roger Emery, passionné d'astrophysique et membre du club ajaxien d'astronomie, explique à Jérôme Souzeni le phénomène exceptionnel des aurores boréales qui a été observé en Europe. Au Maroc, on va aller au Salon international de l'édition et du livre avec Nadira Belkhoutout, qui s'est invitée dans le stand de l'éditeur Ahmad Maradi pour une immersion dans l'univers de l'édition. Au Liban, Nanette Ziadé a rencontré Alice Mourabreb, directrice artistique du BAFF, qui a consacré un cycle de conférences à Tripoli, capitale culturelle du monde arabe 2024. Au Caire, ici la Palestine, Hona Palestine, est une série d'événements pour mettre en lumière la diversité de l'expression artistique palestinienne. Monsieur Eric Lebas, attaché culturel à l'Institut français d'Égypte, nous en parle au micro de Mona Farid de Radio Le Caire. En Tunisie, Sondos Ben Khalifa a rencontré Dr Dora Bousnine, médecin du secteur public, qui nous parle des difficultés que rencontrent les médecins du secteur public en Tunisie qui font face à une pression croissante pour fournir des soins de qualité à un nombre toujours plus important de patients.
Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
Commençons notre tournée méditerranéenne en Corse. Des aurores boréales qui ont été observées le week-end passé très bas en Europe, au-dessus de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Un spectacle grandiose qui a ravi aussi les Corses. Comment expliquer ce phénomène exceptionnel que l'on suit normalement au cercle polaire? Jérôme Souzeni de France Bleu RCFM a posé la question à Roger Emery, passionné d'astrophysique et membre du club ajaxien d'astronomie. On l'écoute.
Les aurores boréales, un spectacle assez grandiose que certains ont pu observer sous nos latitudes, ce qui est assez exceptionnel, certainement. On va voir cela avec le club ajaxien d'astronomie et son vice-président Roger Emery. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Alors, je le disais, assez exceptionnel parce que, comme leur nom l'indique, aurores boréales, on les attend plutôt du côté de, bien pour ceux qui les observent, hein, de la Laponie, de la Finlande, enfin, du cercle polaire. Et là, elles sont descendues beaucoup plus bas. Que s'est-il passé? Expliquez-nous. D'abord, c'est quoi ce phénomène?
Alors, on les appelle aurores boréales parce qu'on a l'habitude de les regarder dans le nord de la Terre. Mais elles se produisent également dans le sud. Généralement, en termes scientifiques, on appelle aurores polaires, qui signifie aussi bien boréal qu'austral. En fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis le soleil, vous savez, c'est un énorme chaudron qui bouillonne, il y a des bulles de gaz qui se forment à la surface du soleil et qui explosent. De ce fait, ça éjecte dans l'atmosphère du soleil ce qu'on appelle de la masse coronale, de la masse de la couronne solaire. C'est un plasma qui vient et qui vient percuter la Terre. Alors, elle ne percute pas directement la Terre, elle percute les lignes magnétiques de la Terre. Vous savez que la Terre, c'est un énorme aimant, hein, et ça représente un peu comme une orange. Vous voyez ? Et ça vient percuter les lignes de la Terre. Ça vient s'écraser sur ces lignes, et ça s'éclate vers le nord et bien souvent vers le sud. À ce moment-là, ça passe au-dessus des pôles, ça vient s'appuyer également sur ces lignes magnétiques derrière, et à un moment, ça se rejoint, le nord et le sud. Et quand ça se rejoint, ce flux magnétique ne sait plus où aller, il revient, et il revient au-dessus des pôles. Et comme une orange, vous voyez, une orange, en haut de l'orange, ça fait un petit peu comme un creux, et bien dans les cornets, dans les pôles, c'est ce qu'on appelle les cornets polaires. Et ce flux magnétique rentre par ces cornets polaires sur Terre Et en rentrant, il va bousculer les atomes des gaz de l'atmosphère. Or, ces gaz, dans un gaz, il y a un atome qui est un noyau et des électrons qui sont répartis par couches autour. L'électron va changer de couche, mais il ne peut pas rester en dehors de sa position. Donc, il va rejoindre sa position, et en rejoignant sa position, il émet ce qu'on appelle un photon. C'est un petit flux lumineux et qui va varier de couleur en fonction du gaz qui a été bousculé et de l'altitude.
Alors c'est ça, on a observé des couleurs, plus pour ceux qui ont pu suivre cet événement, des couleurs plutôt dans les saumons roses, rosés. À quoi sont dues les différentes couleurs? C'est une question d'altitude, alors, de force de l'éruption solaire, c'est quoi?
Alors, de la couleur vient déjà du gaz qui a été bousculé, en quelque sorte, hein, et qui a été percuté du gaz. Donc là, le rouge, c'est de l'oxygène, et c'est de l'oxygène ionisé. C'est-à-dire que les électrons ne sont pas vraiment bien liés avec les noyaux. Ça se passe en très haute altitude, à peu près 250 km d'altitude, vous voyez. Et si on était sur une altitude un peu plus basse, 150 km, ça aurait fait du vert.
C'est ce qu'on voit généralement quand on voit des photos d'aurore boréale en Laponie, voilà. Par exemple. C'est plutôt du vert, verdâtre, scintillant en tous les cas.
On voit du vert, mais on voit aussi un peu de bleu, de rouge. Le bleu, c'est plutôt de l'azote qui est bousculé, vous voyez, ou de l'hydrogène aussi.
Tout ça, c'est des histoires de gaz, mais je vais vous poser une question bête. Ça s'observe la nuit, mais ça se passe également le jour, forcément.
Bien sûr, ça se passe tout le temps. Mais lorsque vous allez, moi je suis allé plusieurs fois en Scandinavie, choisi l'hiver, et quand il y a le moins de jours possible, il y a des aurores en plein milieu de la journée, puisqu'il fait presque noir.
Là, ça s'est produit sous des latitudes, on va dire, assez inédites. C'est rare que ce soit observé, par exemple, en Corse ou au-dessus d'Italie, par exemple, en France, évidemment.
Exactement. Généralement, on a un indice qui nous permet de mesurer la force du flux magnétique, la déformation des lignes magnétiques de la Terre. Et cet indice, c'est ce qu'on appelle le KP. Et généralement, on est quand on a un KP 5, 6, on est très content. Souvent, en Scandinavie, j'ai vu des KP 3, 4, on voit des aurores. 5, 6, ça descend beaucoup plus bas. Un KP 9, de force 9, ça descend jusqu'à Paris à peu près. Et là, on était à 9+. L'échelle ne va pas au-delà de 9. 9+, c'est descendu jusque dans les Alpes. Mais comme on les voit de très loin, on a pu les observer depuis la Corse. Mais ça peut arriver que ça aille beaucoup plus loin. C'est déjà arrivé que ça descende presque jusqu'à l'équateur.
On peut les prévoir, ce type de phénomène?
Alors, aujourd'hui, oui. On peut, je ne dis pas les prévoir, mais pratiquement savoir s'il y a des chances de les voir. Donc, il y a des applications sur les smartphones. Il y a différentes applications. My Aurora Forecast, Aurora Alert, il y en a plusieurs. Et donc, ça va vous donner, on a des satellites qui sont placés proches du Soleil, plus proches du Soleil, je dirais, hein, et qui observent maintenant le flux magnétique qui s'échappe du Soleil, et qui retransmettent sur Terre ces informations, ce qui nous permet, quand un flux magnétique part du Soleil, il faut à peu près 2 jours et demi pour qu'il vienne frapper la Terre. Donc, dès qu'on arrive à l'intercepter, à le localiser, on sait que 2 jours et demi après, il va arriver sur Terre. Et à ce moment-là, on a des prévisions. On savait, cette aurore, on savait qu'elle était de très forte intensité et qu'elle arrivait.
Alors, cette aurore boréale au-dessus de la Corse, ça ne veut pas dire qu'il y aura des ours polaires qui vont poindre leur nez dans notre île. Vous-même, depuis la Corse, vous avez certainement pu observer, peut-être avec vos appareils ou non d'ailleurs, parce que ça peut s'observer à vue.
Je n'étais pas disponible, donc je n'ai pas pu, mais j'en connais plusieurs personnes dans mon entourage qui ont fait des photos. Oui, alors... Après, pour faire des photos, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut faire, l'idéal, c'est de faire des pauses. Vous voyez, parce que le temps que le photon s'imprime sur le capteur de l'appareil photo, il faut un certain temps. Donc il faut des pauses en fonction de votre appareil photo, entre 5 et 20 secondes. Nu peut-être que vous ne voyez rien, mais vous faites une photo de 20 secondes en pause et vous voyez s'il y a de la couleur ou pas. Il m'est arrivé de voir des nuages blancs passer, arriver, et des gens qui se trouvent autour de moi disaient « Ouais, il n'y a pas d'aurore ce soir, j'ai attendez, regardez ce nuage qui se développe, vous allez voir, on va faire une photo. » On fait la photo et on voit de la couleur sur la photo. Et à ce moment-là, quelques temps après, l'aurore peut se développer. Je ne dis pas qu'elle se développe systématiquement, mais elle peut se développer. Donc quand on voit un nuage, on fait une photo et on se dit ben, y a des chances que l'aurore se développe.
Alors il y a le côté fantastique, plus que cela même, et puis il y a le côté plus physique, parce que ça bouleverse quand même les choses. Est-ce que ça impacte les réseaux, ou les champs, ou les applications, ou les systèmes?
Ça peut impacter. En fonction de la force, vous voyez, là, elle était très forte, il y a un autre indicateur qui nous indique la force de l'électromagnétisme, la force de la perturbation. Là, on est au maximum, c'est une échelle de 5, et on est au maximum. Mais dans certains cas, ça peut tout bouleverser. Ça peut bouleverser tout ce qui marche à l'électricité, tout ce qui est communication, tout ce qui est électromagnétique. Agir, on n'agira pas. Mais vous voyez, on peut prendre certaines dispositions. Comme on connaît la zone aurorale, les avions, on peut un peu les dérouter. Dans les avions qui viennent des États-Unis, on peut les faire passer plus bas plutôt que de les faire passer dans la zone aurorale, de façon à éviter les perturbations.
Bien voilà pour ces aurores boréales qui ont concerné très, très bas la France et qui étaient visibles depuis la Corse et depuis la côte italienne également. Roger Emery, merci beaucoup pour le Club Ajaccien d'Astronomie pour nous avoir...
Je vous en prie, au plaisir de vous avoir éclairé sur cette affaire.
C'est le cas de le dire. À bientôt.
Voilà.
Au revoir.
À bientôt.
Vous écoutez Kantara.
Côté musique, Jérôme Souzine nous propose le groupe Au Petit Bonheur qui chante « Je veux du soleil ».
Je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil. écouter Kantara sur Rabaché Nanter. Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
Et nous passons au Maroc. Le Salon international de l'édition et du livre est un grand rendez-vous de la scène culturelle marocaine et internationale. 57 pays participent à la 29e édition à Rabat, y compris les auteurs et les éditeurs des pays de Kantara. Des conférences, des signatures de livres, des retrouvailles entre autres, et un public tout au long de la semaine du salon. Impossible de visiter tous les stands. Nadira Boulkhoutou de Rabat Chaîne Inter s'est invitée dans le stand de l'éditeur Ahmad Maradi pour une immersion dans l'univers de l'édition.
Je me trouve dans le stand de l'éditeur Ahmad Maradi, la maison d'Al At-Touhidi, l'éditeur. C'est un métier, une profession, une vocation. C'est quoi le métier d'éditeur ?
C'est un peu tout ça. Donc, c'est, vous voulez, sans éditeur, il n'y aura pas de livre sur, dans la société. Généralement, la chaîne du livre, elle est constituée de 10 ans, de 5 anneaux. Et le premier, c'est bien sûr l'auteur qui produit le produit lui-même, pas en tant que produit commercial, mais en tant que point de vue, création, etc. Vient par la suite l'éditeur qui prend le, si vous voulez, ce qu'a produit l'auteur et le met en package d'un produit qui sera commercialisé. Et dont la destination serait le lecteur.
La tâche précisément de l'éditeur, il corrige, il conseille.
C'est un peu encore tout ça. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'éditeur, il doit avoir une ligne éditoriale. Donc, il va d'abord choisir. Donc, il choisit selon sa ligne éditoriale. Est-ce que le livre est valable. Et quand je dis est-ce qu'il est valable, c'est-à-dire est-ce qu'il va produire de l'émotion. En deuxième lieu, est-ce que ce livre sera vendable? Parce que dès que l'auteur ne tient plus son œuvre, ça devient un produit plutôt commercial.
Plusieurs types, chaque maison d'édition et la saline éditoriale, il y a ceux qui font dans les livres d'enfants, dans la poésie. Quand il reçoit, l'éditeur reçoit le livre, il doit le lire, il doit le corriger.
Il doit avoir un comité de lecture. Donc, il doit lire le livre. Il voit, est-ce qu'il est un produit qui va être bien reçu dans l'univers du lectorat. Et bien sûr, est-ce qu'il fait partie de, il va faire partie de sa ligne éditoriale. C'est-à-dire, par exemple, il y a des éditeurs qui ne font que le livre religieux. Il y a des éditeurs qui sont pratiquement dans la reproduction des livres de l'histoire, de l'ancienne histoire. Il y a des éditeurs qui font dans le coaching. Il y a des éditeurs qui font dans le, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le livre d'enfants. Et puis, il y a des éditeurs, et ce sont les plus riches, qui font dans le livre scolaire. C'est-à-dire, il y a d'abord la lecture, et bien sûr, le choix d'édition. Le choix d'édition, est-ce qu'il va être fait sous forme d'un livre illustré, d'un livre à lecture simple, etc. Et puis, suite à ça, il y a des décisions. Est-ce qu'il faut une révision ou une correction ou une relecture ou une restructuration sémantique, etc., du livre, ou c'est définitif? Et tout ça, ça se fait au niveau du comité de lecture.
Qui sont ces personnes du comité de lecture, leur formation, c'est des écrivains?
Ce sont des gens, des experts, bien sûr. Généralement au Maroc, ce sont des gens qui travaillent à temps partiel parce que les maisons d'édition au Maroc ne sont pas très capitalisées. même l'impression a commencé au Maroc en 1864. Ce sont des professionnels, ce sont des gens, des universitaires en général, des enseignants à l'université. Et selon la spécialité, on fait appel à quelqu'un qui collabore avec la maison d'édition pour lire le livre et faire un rapport et faire des recommandations. Est-ce qu'il faut recorriger sur le plan linguistique? Est-ce qu'il faut les structures, etc., etc.
L'autre étape qui vient après, c'est...
Après, c'est la conception. C'est la conception du livre, la mise en page de l'intérieur et puis la production d'une couverture adéquate. Bien sûr, la couverture, il se base sur le rapport qui a été élaboré par le comité de lecture.
Et le contenu, bien sûr, l'histoire...
Exact, le rapport, il reflète le contenu de livres. Donc il y a intervient ici l'infographisme, enfin l'infographiste, pour faire le travail, donner plusieurs modèles et faire un choix avec l'auteur et avec le comité de lecture. Suite à ça, on adopte bien sûr la couverture et la mise en page interne. Il doit obéir à un certain nombre de règles d'art, donc c'est connu. Et suite à ça, le livre il est disponible, il est prêt. La dernière étape, c'est signer un contrat avec le propriétaire des droits, c'est l'auteur. Et suite à ça, l'étape suivante serait de l'imprimer.
Vous écoutez Kantara sur Radio Liban 96.2.
Nanette Ziadeh de Radio Liban 96.2 a rencontré Alice Mourabrab, directrice artistique du BAF, qui consacre un cycle de conférences à Tripoli, capitale culturelle du monde arabe 2024.
Tripoli, grande ville du nord Liban, capitale de cette région, a été désignée capitale culturelle du monde arabe pour 2024. Alice Mourabrab, directrice artistique du BAF, le Beirut Art Film Festival, lui consacre un cycle de conférences mettant en valeur le patrimoine de cette ville qui est un véritable joyau de la Méditerranée.
D'abord, ce qui nous importe dans ce festival, dans cette édition du festival consacré à Tripoli, capitale culturelle du monde arabe, c'est bien sûr cette ville qui est d'une richesse inouïe, une ville trois fois millénaire dont les habitants sont extrêmement chaleureux, accueillants, attachés à leur ville et à leur histoire. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, Tripoli, c'est presque plus le Liban. Et en fait, bon, nous avons besoin de sensibiliser nos jeunes aux richesses de cette ville. Peut-être aussi
montrer que cette ville qui est souvent associée à la pauvreté et au conflit a autre chose à offrir.
Ah oui, absolument. On lui a collé une étiquette de ville pauvre alors que c'est une ville d'abord riche. Elle n'est pas plus pauvre que Beyrouth, elle n'est pas plus pauvre que d'autres villes du Liban, surtout depuis la crise. Il y a surtout une dynamique au niveau des jeunes qui commencent à s'intéresser à leur patrimoine architectural et à leur ville, donc à s'investir dans la préservation de certains monuments. Mais en fait, Tripoli est une ville musée. Elle a besoin d'être entièrement, pratiquement préservée, presque entièrement préservée. Et voilà, donc en l'absence d'un État, en l'absence et le temps qui passe, le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie l'année dernière, tout ceci n'a pas aidé à la préservation. Mais aujourd'hui, ce que nous allons tenter de faire à travers ces 9 conférences, c'est à la fois la célébration des richesses du patrimoine culturel tripolitain, mais aussi tirer la sonnette d'alarme, car il y a vraiment il se passe des choses incroyablement tragiques. Voulu, hein, des vrais abattages d'immeubles classés. Il se passe des choses assez inquiétantes d'ailleurs, voilà.
Alors que Tripoli a quand même donné naissance à une caste politique assez importante, qui ne fait pas grand chose pour sa région en l'occurrence.
Ça, oui, c'est vrai. Non seulement ils font pas grand-chose, à mon avis, ils font bien le contraire, mais ça, c'est typique à tout le Liban, pratiquement. Vous savez, c'est quand même incroyable que depuis 6 mois, il ne s'est pas trouvé 3 Libanais qui disent non à la guerre. On ne veut pas de guerre sur notre territoire. On n'a plus besoin de guerre sur notre territoire. C'est quand même assez incroyable.
Alors, on l'a entendu, mais on n'a rien vu suivre.
Depuis 5 ans, aucune réforme n'a été faite pour soulager la population de cette crise. Alors, Tripoli fait partie, bien sûr, de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est effroyable.
Une promenade à travers Tripoli, ce que vous allez d'ailleurs proposer dans le cadre de ces 9 conférences avec une agence de voyage, montrera très vite à celui qui ne connaît pas cette ville que c'est un musée à ciel ouvert.
Exactement. Et c'est un musée à ciel ouvert. Au moment où les capitales arabes construisent leurs propres musées, se dotent de méga bâtiments superbes, avec de grands noms de l'architecture, nous, on a là une ville entièrement historique, avec à la fois il y a l'archéologie, l'époque croisée, l'époque mamelouque, l'époque ottomane, l'époque moderniste. Donc tout ça, c'est d'une richesse inouïe. C'est vrai que c'est dans un état assez pitoyable, mais il y a des choses qui ont été faites, il y a quand même des projets qui ont réussi, il y a des projets qui n'ont pas réussi, mais il y a tellement à faire, et je pense que dans cette perspective, il faut regarder l'avenir et se dire, voilà, nous allons rester et travailler pour maintenir ce capital, à la fois qu'il soit à Tripoli ou même à Saïda ou à Beyrouth. Les Libanais doivent prendre conscience de ces richesses et les préserver, en tout cas au moins ne pas les détruire déjà, parce que le temps évidemment détruit, mais l'être humain détruit plus vite encore que le temps. Ça, c'est incroyable.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Tripoli a son nom associé à un des plus grands architectes de notre temps, qui est Oscar Niemeyer, qui a signé donc la foire de Rachid Karamé, qui elle aussi est en piteux état, qui gagnerait à être rénovée. Ça, c'est une autre histoire. Il y a eu des appels d'offres, il y a des concours gagnés, mais bon, on ne voit toujours pas la suite non plus.
Chose qui a été faite, c'est de classer ce site au patrimoine mondial, voilà, en danger, le patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, ça y est, le lieu est sorti entre des mains de nos requins, et que plus personne ne peut vraiment y toucher. Il y a un agenda avec des normes pour la restauration. Et lorsque les choses vont se faire tranquillement, j'espère qu'elles se feront bien. En tout cas, on a un duo de jeunes architectes, Nicolas Fayad et Charles Kettani, qui ont proposé l'année dernière le projet de rénovation de la guest house de la foire Rachid Karamé à Tripoli, et qui ont remporté le prix de l'Agacan. Et nous les avons invités justement lors d'une séance sur la foire Rachid Karamé, intitulé « Passé, présent, futur », à nous parler de leur projet, à nous parler donc de l'avenir d'un des bâtiments de cette foire, en attendant le projet de rénovation complet.
Alice Mrabrab, en 2 mots, enfin, vous avez des panels avec des thématiques très diverses. Juste pour un tout petit peu résumer les différentes thématiques que vous allez aborder.
Alors, l'histoire de la ville, son urbanisme, son développement, bien sûr. Il y a la littérature, une visite, plusieurs visites de la ville à travers plusieurs romans écrits par des auteurs tripolitains. Il y a une soirée dédiée à la tradition musicale à Tripoli, les makamat, soufis et les les chants soufis, il y a les chants orthodoxes, les chants profanes. Il y a également une soirée dédiée à l'opéra L'amour de loin. Il y a aussi donc une table ronde sur le Tripoli croisé, mamelouk, ottoman. Il y a une soirée sur Rachid Karame, la foire Rachid Karame, bien sûr. Une autre sur l'architecture mandataire en danger et ce trésor méconnu. Il y a également une soirée sur le Tripoli sur grand écran, c'est Tripoli au cinéma. Et enfin, il y a surtout en finale cette rencontre entre quatre femmes jeunes, dynamiques, qui dirigent quatre ONG à Tripoli, très actives sur le plan donc à la fois social et humanitaire, que ce soit à Jabal Mahsen Bebet Bene ou au sein même de la ville, et qui incarnent vraiment des solutions, des propositions de solutions pour l'avenir. Et ça, on a voulu terminer cette édition consacrée à Tripoli, joyau sur la Méditerranée, et plutôt que capitale du monde arabe, car Tripoli et sa place est sur la Méditerranée. Elle l'a toujours été, elle a toujours fait le négoce entre Venise, Chypre, la Grèce, Rome. Et donc, voilà, je pense que sa place est là et c'est un joyau oublié, abandonné, délabré. Mais il n'est pas dit qu'il ne sera pas sauvé.
Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à mal dents. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici pas? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui, encore. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici bas? Quelque chose nous emporte, nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu croises quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici bas? Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici bas?
Et nous passons en Tunisie. Les médecins du secteur public font face à une pression croissante pour fournir des soins de qualité à un nombre toujours plus important de patients. Malgré les difficultés, un bon nombre d'eux s'accrochent et apportent le plus. Docteur Dora Bousnina en est un exemple. Et elle est l'invitée de Sondos Ben Khalifa de RTCI.
L'exode du personnel médical se poursuit en Tunisie, avec environ 1000 professionnels de santé, dont des médecins choisissant d'émigrer chaque année. Ce chiffre est très alarmant, presque équivalent au nombre de praticiens formés chaque année. Docteur Darabousnina, notre invité dans notre émission Kantara, bonjour.
Bonjour.
L'exode des médecins tunisiens, de l'héroïsme ou de l'égoïsme ?
Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Donc, égoïsme ou héroïsme, mon avis personnel, ce n'est ni l'un ni l'autre, au fait. Bon, c'est vrai que c'est un choix. C'est une décision qu'on prend difficilement. On arrive à choisir ce parcours de quitter la Tunisie, de travailler ailleurs. Ça ne doit pas être facile pour n'importe quel médecin, au fait.
Justement, quelles sont les principales raisons qui motivent certains médecins tunisiens à quitter le pays ?
Il y a différentes raisons, au fait. Il y a différentes raisons, c'est-à-dire que il y a ceux qui veulent se performer, il y a ceux pour des problèmes d'argent, il y a ceux pour des conditions de travail.
Difficiles.
Il y a pour d'autres causes familiales. Il y a beaucoup de causes, au fait. On ne voit pas que le côté financier, c'est-à-dire, bien que c'est loin de là, parce qu'il y a quand même pour s'installer à l'étranger, il y a 3 ans minimum très difficiles. C'est le stagiaire éternel qui va travailler 10 heures par jour minimum, plus les gardes. Donc, ça va pas être. C'est pas des conditions aussi.
C'est pas le paradis.
C'est pas le paradis. C'est loin d'être le paradis, ça, c'est sûr. Mais c'est un choix qu'on respecte et qu'on aimerait bien s'approfondir dans les causes, finalement, pour trouver des solutions.
Justement, c'est pas le paradis, mais en même temps, il y a environ 1000 professionnels qui partent chaque année.
Oui, c'est l'effet de boule de neige. C'est l'effet domino. Donc, c'est mon ami, mon camarade a fait ça, je vais faire pareil. Finalement, il se passe le mot. Et c'est comme ça qu'il quitte, surtout ces 5 dernières années. Parce que c'est des circuits qui ont été vraiment mis en place par les jeunes. Ils passent le concours de l'équivalence si c'est pour la France. L'Allemagne, c'est-à-dire, il y a une demande. Donc, les gens qui ne réussissent pas le concours de Residana, ou bien maintenant, pour ceux qui choisissent cette spécialité, qui est pour moi une spécialité très importante, qui vraiment elle a sa place dans notre système de santé, qui est la médecine de famille, qui est le pivot du système de santé, on le veuille ou pas. Donc ces personnes quittent pour faire une autre spécialité. Il y a plusieurs causes. Sinon, il y a le côté conditions de travail, ça, il ne faut pas le nier.
C'est important.
C'est important. Les choses ont changé, il n'y a plus de recrutement dans le secteur de la santé, ou bien, c'est-à-dire, les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Donc, ceux qui restent travaillent plus et les conditions changent et ils veulent que, finalement, améliorer les conditions de travail, je pense.
Docteur Boussina, malgré toutes ces raisons qui semblent valables, pour certains, vous avez choisi de rester en Tunisie. Quelles sont vos motivations ?
Moi, ma motivation...
Malgré toutes ces conditions
personnellement,
difficiles...
Personnellement, je n'ai jamais été tentée par l'étranger, c'est-à-dire pour quitter la Tunisie. Je suis née en Tunisie et, Inch'Allah, je mourrai en Tunisie. Ça, c'est certain, parce que la Tunisie, c'est ma patrie, et je suis là pour servir cette patrie. Et chacun doit servir la patrie de son côté, par sa manière. Donc, moi, j'ai choisi de travailler... J'aime le secteur public, spécialement aussi. J'ai hérité ça de mes parents. Mon père, Allah yarhamou, il a beaucoup travaillé dans le secteur public, il défend la santé publique et qui est le pilier du système de santé.
Tout au long de votre parcours, qu'est-ce que vous avez réalisé ? Qu'est-ce que vous avez donné au secteur public ?
J'ai rêvé quand j'étais recrutée en 99. J'ai commencé à travailler donc dans un quartier qui est très populaire, qui est à Sidi Hlay, à Malassine. Donc c'est un centre de protection maternelle et infantile qui s'occupe de la santé de la mère et de l'enfant et de la famille. Donc il y avait une équipe extraordinaire de médecins. Des pédiatres, des généralistes, un gynécologue, les sages-femmes, le personnel paramédical. Et là, c'était une famille pour moi parce que c'était le coup de foudre dès la première semaine. J'ai aimé cette équipe et je me suis intégrée. Et j'ai surtout aimé la communauté de Malassine et de Sidi Hlay. C'est des gens extraordinaires.
Pas loin du centre de Tunis.
Voilà, c'est à même pas 1 kilomètre
de
la capitale. Donc c'est un quartier là où il y a beaucoup de problèmes psychosociaux, socio-économique, tout ce que vous voulez. Donc, et là, j'ai trouvé qu'une équipe engagée qui m'a fait apprendre, mes aînés m'ont fait apprendre l'amour pour cette médecine communautaire, en fait. Et là, j'ai commencé à travailler et j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un centre, parce que le centre, il est agréable, c'est vrai, mais les conditions étaient un peu difficiles. Et un concours de circonstances m'a mis devant la réalisation de mes rêves. Mmh. Et j'ai rêvé peu, j'ai vu petit, mais j'ai rêvé grand, mais j'ai réalisé après grand, pas petit, parce qu'il y a des choses, une cascade d'acquisition pour ce centre. Mmh. Quand je vois maintenant les 10 dernières années déjà, je vois qu'on a fait beaucoup de choses comme équipe.
Quel genre de challenge vous avez
Ça a commencé, j'étais sélectionnée, enfin parmi un nombre de médecins, pour travailler, quand même j'ai travaillé dans les stratégies. Donc une stratégie qui s'appelait la stratégie de la santé, programme conjoint en santé maternelle et néonatale, mmh. en 2014. La stratégie, elle était on a beaucoup de stratégies extraordinaires en Tunisie. C'est-à-dire dans le ministère de la Santé, dans la planification, il y a plein de stratégies ambitieuses. Le seul problème, c'est la mise en œuvre en fait, c'était ça. Et il y avait les trois axes. Il y avait l'axe gouvernance, l'axe prestation de services et l'axe système d'information. Et dans l'axe des prestations de services, il y avait un premier effet, c'était l'humanisation des soins. D'accord. Et ce qui nous manquait en Tunisie, c'est l'humanisation des soins.
D'accord.
Et je me suis dit, là, il faut qu'on travaille un peu plus sur ce volet pour le développer et voir comment les gens vont réagir face à l'humanisation des soins. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé à travailler. Bon, bien sûr, on a fait le plaidoyer auprès du ministère. Les décideurs ont accepté le challenge et on a commencé à une mise à niveau de ce centre. Et on avait huit mois presque, je pense, de chantier, de travaux. Mm-hmm. Et puis, c'est-à-dire, c'est important que le citoyen, quand il sollicite un établissement sanitaire, qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien installé, qu'il y a un bon accueil, qu'il y a une bonne prise en charge.
Vous avez réussi à encadrer des jeunes médecins et les convaincre de rester à côté de vous.
Justement, après l'effort qu'on avait fait, donc on a vu, c'est-à-dire la mise à niveau de ce centre et l'humanisation et tout l'équipement et les unités qu'on avait ajoutées, le rapprochement des soins, on a facilité pour le citoyen. On reçoit des stagiaires, des résidents en médecine de famille, et chaque fois qu'ils viennent, ils étaient agréablement surpris, finalement, de voir que on peut, si on veut, on peut. On peut travailler dans de bonnes conditions. Et le comportement des gens, comment il change? Donc imaginez travailler dans des conditions comme ça. Et c'est la petite touche là qui fait la différence. C'est la passion et c'est l'amour pour le travail qu'on
fait.
Oui,
c'est la source justement de la réussite.
Justement.
Comment les médecins qui ont choisi de rester en Tunisie, comme vous, docteur Bousnina, contribuent-ils à améliorer la qualité des soins dans le secteur public malgré les défis rencontrés?
C'est la persévérance et l'engagement. En fait, il faut persévérer, il ne faut pas... C'est-à-dire, avec parfois des petits moyens, on peut résoudre d'énormes problèmes. Mm-hmm. Et la persévérance, il faut tenir bon, si on veut. Et l'engagement, c'est-à-dire l'appropriation du travail. Il faut qu'on travaille, c'est-à-dire être vraiment engagé. Et en sachant que ça peut être... Il y a des obstacles, mais on peut les dépasser. Et le malade ou le patient qui est devant nous, on doit le considérer comme un membre de notre famille ou une personne vraiment qui nous est proche pour lui trouver la bonne solution au bon moment et essayer de faire un effort supplémentaire. C'est vrai que c'est épuisant, mais parfois...
Le résultat est
satisfaisant.
Comment les autorités tunisiennes pourraient-elles encourager les médecins à rester dans le pays et à travailler dans le secteur public malgré toutes ces difficultés?
Bon,
d'après
je
ne
sais pas si je suis bien placée pour trouver les bonnes solutions politiques.
D'après votre,
politique,
votre expérience.
Mes expériences, il faut un dialogue. Déjà, avec les jeunes, il faut commencer tôt sur les bancs de la fac. Il faut changer les préjugés, parce qu'on a beaucoup de préjugés, au fait.
Tout à fait.
Non, au contraire. Comme quoi, ça ne va pas, les conditions. Mm-hmm. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, de médecins qui s'investissent dans le secteur public et privé, bien sûr. Mais on a de très bons médecins, une très bonne formation. Et les conditions, ce n'est qu'une bonne gestion, finalement. Il faut un bon leader, un leadership, avec une bonne organisation et avec des petites recettes. C'est vrai, avec des petits moyens, on peut bien trouver des solutions contre le problème de l'exode des médecins, j'imagine.
Merci pour cette note d'optimisme, docteur Bousnina. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité et à une prochaine fois.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Et nous passons au Caire. Vous écoutez Kantara sur Radio Le Caire. les 27 et 28 avril dernier, l'événement Ici la Palestine, Hona Palestine, s'est tenu à l'Institut français d'Égypte à Mounira. Comment la culture peut-elle jouer un rôle efficace au moment des conflits, à la lumière de la crise actuelle à Gaza? Explication avec Monsieur Éric Lebas, attaché culturel à l'Institut français d'Égypte, au micro de Mona Fali de Radio Le Caire.
Monsieur Éric Lebas, attaché culturel de l'Institut français d'Égypte, bonjour.
Bonjour.
L'Institut français d'Égypte tient au cours de deux journées ici la Palestine une série d'événements culturels et artistiques qui ont pour objectif de soutenir le peuple palestinien dans la crise actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux journées d'activité?
Alors c'était, je pense, de redire que c'était important pour nous de consacrer deux jours à la Palestine. À la fois parce que effectivement c'est dans un moment de crise et de difficulté, finalement une des réponses, c'est pas la seule, on l'a vu, mais la culture, celle qui fait le lien entre les personnes, peut être mise à l'honneur. Et donc il était important pour nous de mettre en valeur cette richesse de la culture palestinienne, celle qui est présente ici, déjà en Égypte, ou celle qui vient aujourd'hui et même plus récemment de Gaza ou du reste de la Palestine. L'idée c'était de présenter à la fois ce qui est un peu les marqueurs un peu forts de la culture palestinienne, les savoir-faire, la gastronomie, parce que ça fait partie d'une culture, mais aussi des choses plus récentes, des artistes contemporains qui produisent aujourd'hui, que ce soit à Gaza ou ici, des artistes palestiniens, j'entends, qui produisent aussi en Égypte, ceux qui sont restés encore à Gaza, on puisse aussi parler de leur travail, ceux qui arrivent à quand même continuer à créer. C'est difficile, la situation est extrêmement compliquée, on en est tout à fait conscience, mais voilà, de présenter aussi le travail des photographes, de ceux qui aussi remontent et montrent, continuent à montrer une image de Gaza, de la Palestine, sous un jour sinon positif, en tout cas de dire que voilà, il y a des créateurs, il y a une diversité dans la culture palestinienne, qu'elle est riche et qu'il fallait aujourd'hui, en tout cas, seulement deux jours, mais c'est aussi l'occasion de le rappeler, d'en parler et de le propager. Voilà.
Quand vous venez de le dire, c'est que la culture est un lien entre les peuples et en étant une force douce qui possède des outils de conviction, d'attraction, qui peuvent aller même jusqu'au point d'être plus efficaces parfois que les tables de négociation, la culture.
Oui, c'est vrai. En tout cas, on assume pleinement le fait que en faisant un événement dédié à la Palestine, c'est aussi un message de paix et de fraternité. C'est un événement solidaire. Voilà, c'est en solidarité avec le peuple palestinien, avec la communauté palestinienne, qu'elle soit récente ou plus ancienne ici en Égypte, pour les Égyptiens et Égyptiennes qui sont très liés au peuple palestinien. C'était pour nous extrêmement important de créer un environnement bienveillant, inclusif, mais aussi qui soit solidaire avec le peuple et qui propage, on l'espère, modestement, parce qu'on sait très bien qu'effectivement c'est des choses qui nous dépassent, mais que ça propose aussi un message de paix, comme ça a été rappelé juste avant.
Ce n'est pas le premier événement organisé par l'Institut français à cet égard. Il y avait depuis presque un an un autre événement qui s'appelait ici le Soudan.
Exactement.
Toujours.
Exactement. En fait, c'est un concept qui est à la fois lié à notre capacité à pouvoir aussi être attentif à une actualité, qu'elle soit difficile, grave, mais que on puisse aussi, avec nos outils, la culture, pouvoir apporter une réponse. Effectivement, vous le rappeliez, il y a un an, on mettait en place ici le Soudan, en direction de la communauté soudanaise artistique. On a d'ailleurs eu de très beaux moments aussi de fédérant la communauté soudanaise ici. Et on a même eu à nouveau un concert de jeunes rappeurs soudanais il n'y a pas très très longtemps, qui a à nouveau amené cette communauté. On espère qu'avec ici la Palestine, on aura aussi toute ce foisonnement de la communauté palestinienne, on parle beaucoup de la Palestine, mais qu'on en parle sous un autre jour. C'est l'objectif de ces deux jours.
Mais dans quelle mesure pensez-vous qu'un événement pareil peut-il calmer les tensions humaines dues à cette situation délicate? Et vous n'avez pas peut-être des craintes à ce que ça se transforme en des manifestations ou quelque chose comme ça?
Je pense que le dialogue qu'on a mené avec les artistes et ceux qui sont présentés ici, qu'ils soient d'ailleurs, certains sont réfugiés en France, hein, ou certains sont encore, comme je l'évoquais tout à l'heure,
en Palestine.
Il y a ce qu'on maîtrise, un programme avec effectivement une diversité de propositions. Chacun libre ensuite de pouvoir exprimer ses opinions que,
en paix.
En fraternité et en paix, comme je le rappelais. Il y avait la volonté, en tout cas, que ici, c'est un espace d'expression de liberté. Les choses ne sont pas fermées et que si on le souhaite, effectivement, ceux qui voudront dire au moment de telle ou telle rencontre, exprimer une opinion, voilà, ils seront libres de le faire, sans violence, sans extrême, sans difficulté.
Bah, je vous souhaite une excellente chance pour ces deux journées et je vous remercie au nom du peuple égyptien d'avoir pensé à des événements pareils. Merci, monsieur Eric Le Bassa, attaché culturel de l'Institut français d'Égypte.
C'est la fin de ce Cantara. Merci d'être des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles aventures que vous propose l'équipe de Cantara. Nous rappelons aussi que Cantara est le fruit d'une large coopération avec France Bleu, RCFM, Rabat Chaîne Inter, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Radio Extérieure d'Espagne, Radio Liban 96.2 et Radio Le Caire. Nous rappelons également que toutes nos émissions et nos podcasts sont sur notre page Facebook et sur le SoundCloud de la COPIAM.
RCFM, la Méditerranée.